Géopolitique.
Sophie Malibaud.
Nous reprenons notre émission sur les opérations extérieures de la France ou comment la France participe au combat contre le djihadisme international à travers une palette d'interventions. Nous étions sur l'Afghanistan tout à l'heure. Nous allons aborder donc le problème de la bande sahélo-saharienne. Michel Fouché, vous vouliez réagir?
Oh non, c'est pas réagir, c'est constater qu'il y a Al-Qaïda centrale qui est affaiblie, mais il y a des filiales franchisées en Syrie, en Irak, au Yémen, et puis surtout au sud de l'Algérie, au nord du Mali. Sans parler d'arc de crise, comme le disait à mon avis à tort le livre blanc de 2008, parce que c'est justement, il faut éviter ce chaînage territorial, on voit très bien que c'est quand même un peu les mêmes références, les mêmes acteurs, les mêmes méthodes, ils apprennent aussi des leçons, on n'est pas les seuls en matière d'insurrection, et puis surtout il y a une capacité tactique extraordinaire à s'installer là où il faut, c'est-à-dire des montagnes périphériques frontalières. Voilà, ça, c'est l'exemple de l'Adrar des Ifora. Je trouve que les autorités maliennes précédentes, jusqu'en 2013, sont gravement coupables d'avoir accepté de sous-traiter finalement la gestion de leur territoire, moyennant finance, à des groupes comme ACMI, qui sont en fait des groupes algériens, mais avec des connexions internationales extrêmement fortes. Et il faut donc absolument éviter que ça se passe dans l'Aïr du Niger, c'est à peu près sous contrôle, ou bien dans le Fezzan, ou bien dans le Tibesti. Et on va retrouver le Yémen, si vous voulez. Donc, et là, la France est confrontée à ce type de chaînage territorial, avec des groupes extrêmement mobiles. N'oublions pas que si l'ennemi proche, c'est l'Arabie Saoudite, gardienne des lieux saints, l'ennemi lointain, ce sont les alliés, c'est-à-dire en gros la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et les États-Unis. Et donc c'est désigné comme tel. Et par conséquent, l'indifférence n'est pas une option. Et en géographe, je constate que les deux tiers des crises graves du monde en 2014 se situent entre 3h et 6h de vol de Paris. Alors, c'est une réalité stratégique. Et je parle pas de l'Ukraine. Et donc, on n'a pas le choix. 62% du temps de discussion au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2012 et en 2013, c'est une source africaine, ont été consacrés aux questions africaines. Mmh. Alors, on décide que ça nous l'indifférence, mais c'est pas le choix de la France. Je dirais, d'une certaine façon, on n'a pas le choix. Mmh. Et on assume le fait de ne pas avoir le choix, et donc on est obligé d'agir.
Michel Galli, vous parliez de la France tout à l'heure, la France sous-traitant des États-Unis sur cette zone. Est-ce qu'on a les moyens, comme le dit Michel Fouché, de faire abstraction des problèmes posés dans cette zone?
Écoutez, je pense qu'il faut le replacer en tout d'une histoire spécifique. C'est environ 50 interventions militaires depuis 1960. Il est bien connu qu'on soutient un certain nombre de dictatures, parfois héréditaires. Donc, on soutient des régimes qui sont rejetés par la population et avec un échec global tant des politiques de développement que de l'État. Dans notre ouvrage collectif que je dirigeais sur la guerre au Mali, Bertrand Badi, le politologue bien connu, fait une analyse très pertinente de cet échec de l'État qui est rejeté et le fait que les sociétés se tournent vers le religieux. Donc je ne sais pas si les interventions militaires à répétition enveniment le problème ou le résolvent, vous voyez. Et ça, c'est la question de la légitimité. Les Grande-Bretagne, par exemple, n'apprécient pas forcément le régime de Mugabe ou la crise post-électorale au Kenya. Pour autant, il est hors de question, il est même impensable qu'ils interviennent. Donc cet interventionnisme militaire fait que, pour moi, la France est en retard d'une décolonisation, que ses bases sont complètement anachroniques, que ses opérations de maintien de l'ordre spécifiques, en tout cas la politique française, de sorte que quand on demande à nos alliés européens de fournir des troupes, on le voit bien, ils sont extrêmement réticents pour eux, et selon mon analyse, c'est une continuation de la politique coloniale sur la longue durée, de répression des sociétés, en même temps, non pas comme des groupes isolés, comme il vient d'être dit, mais ces groupes que vous prenez au Mali, par exemple, ACMI, le Mouchao, en Sardine, ils ont une base sociale. Il y a peut-être 20% de la population de Bamako qui est wahhabite. Le Mouchao, des villages entiers autour de Gao, les soutiennent, vous voyez. Donc c'est une question de société et non pas de groupes terroristes. C'est là où l'interprétation par le terrorisme échoue complètement quand il y a une base sociétale à ces mouvements. Donc, mais, si on prend le cas du Mali,
oui,
par exemple...
Attendez, je voudrais demander tout de même... Attendez, on poursuivra, mais je voudrais savoir, vous pensez qu'on néglige, Michel Fouché, vous pensez qu'on néglige les autres aspects de la crise pour se concentrer uniquement sur le phénomène djihadiste ?
Là, le sujet, c'est les opérations militaires extérieures. On pourrait parler des politiques qui sont suivies par la France ou l'Europe.
Mais les choses sont liées.
On pourrait parler de la coopération, le Mali est l'État qu'on a le plus aidé depuis 1962. On a l'impression que c'est de l'eau dans le sable. Dans le cas de l'opération au Mali qui a démarré à une date précise, hein, c'est-à-dire en janvier 2013, 11 janvier 2013, c'était pour empêcher des colonnes que j'appelle djihadistes, hein, de prendre le contrôle de Bamako et de rassembler 6000 blancs dans un stade pour commencer à négocier. C'était ça. Il y avait une menace d'origine extérieure. Et d'ailleurs, cette menace, elle s'est manifestée en réponse à la résolution 2085 a été votée fin décembre. C'est-à-dire que là aussi, les groupes...
Mais qu'est-ce qui empêche, une fois que cette colonne est arrêtée, qu'est-ce qui empêche les djihadistes de revenir ? On le voit en ce moment du côté de Kidal.
Je réponds à des arguments qui viennent d'être servis, mais que j'entends, puisque je parle beaucoup de ces questions de politique de la France, tant à Brasilia qu'à Pékin, ces dernières semaines. Et on voit très bien qu'il faut essayer d'expliquer que c'est pas parce que la France a été une puissance coloniale et qu'il y a une intervention militaire contre une menace extérieure dans une ancienne colonie que c'est aujourd'hui, en 2013-2014, une intervention coloniale. Je refuse absolument cet argument.
Je refuse cet argument dans le cas
de l'opération au Mali. Je ne le récuse pas pour les affaires au Gabon ou ailleurs autrefois. On est en 2013-2014, cette opération malienne, elle était spécifique, il fallait agir.
Michel Gallier, on peut dire que cette opération, la France a quand même été créditée pour avoir quand même enrayé la descente des djihadistes dans une zone, le conflit pouvait s'étendre.
Tout à fait, et à ce moment-là, je l'ai moi-même soutenu, bien qu'étant très critique. Ceci dit, il y avait une insurrection de la gauche malienne dans Bamako, hein, c'est encore mal connu, qui pensait faire le lien, et à mon avis se trompait d'ailleurs, avec les djihadistes. Hein. Ceci dit, c'est la poursuite de l'intervention sur le long terme, hein, parce que, au fond, moi, on a avancé le concept de guerre nomade, on a dispersé aussi les djihadistes du côté du Niger, où on a des intérêts autour de l'uranium d'Arlit, c'est bien connu, en Algérie, où il y a eu l'attaque d'In Amenas. Les groupes se sont repliés vers le sud de la Libye. L'intervention libyenne a été une faute majeure sur le plan stratégique qui a diffusé la guerre et le djihadisme dans toute l'Afrique sahélienne.
Et donc,
il y a la question de la légitimité et puis la question des modalités. Hein. C'est quand même, à mon sens, un demi-succès. En ce moment, il y a des attaques médiatiques et politiques contre Ibrahim Boubacar Keïta.
Oui, on y reviendra plus tard. Je voudrais demander, à propos, excusez-moi Michel Galli, je voudrais demander à Michel Goya, à propos de cet effet de dispersion, est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a quand même eu un problème depuis l'intervention en Libye. Certains ont même présenté ce qui s'est passé au Mali comme une conséquence indirecte de l'intervention au Mali. En Libye, pardon.
Oui, non, je pense qu'il faut pas exagérer. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intervention occidentale au Mali qui a créé les mouvements djihadistes. Ils existaient bien avant, ils étaient très mobiles bien avant. Cette intervention au Mali a facilité surtout le retour de certains Touaregs, un déplacement d'armes et d'hommes en armes dans le nord du Mali. On sait d'ailleurs même concrètement que parmi l'arsenal qu'il y avait à Acmi dans le nord du Mali, il n'y avait pas forcément beaucoup d'équipements qui venaient de Libye. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Le lien n'est pas si évident que ça, quoi. C'est-à-dire que on aurait pu envisager cette opération différemment. On aurait pu, comment dire, la faire suivre par une opération de stabilisation, éventuellement. Ce qu'on a refusé à faire en refusant d'envoyer des troupes au sol. On aurait pu, effectivement, essayer de gérer l'après. Mais ça, encore une fois, ça supposait de s'engager militairement.
Mais alors, justement.
L'armée, ça sert aussi parfois à quelque chose, quoi.
Oui, mais parlons des acteurs. Pourquoi est-ce que la France est un peu seule sur ce terrain ? Est-ce que c'est soutenable de s'engager sur autant de terrains à la fois, seul, sans plus d'appui de la part des Européens, par exemple.
Oui, je crois que là aussi, si on regarde la carte, on s'aperçoit que il y a le Mali, France, plus ou moins seule. Les autres nous ont donné ce qu'on leur avait demandé. Et dans le type d'opération militaire qui était une guerre éclair de destruction, c'était mieux de travailler tout seul, au plan militaire.
Donc vous rejoignez, on revient sur la comparaison que vous faisiez tout à l'heure avec l'Afghanistan, on n'a pas appris à travailler avec les autres.
Non mais si vous vous déplacez, plus vous allez vers l'Est, plus vous vous rendez compte qu'il y a énormément de forces africaines qui sont elles-mêmes engagées dans des opérations sous mandat de l'Union africaine ou sous mandat des Nations unies. Alors, je vous donne un exemple qui n'est pas du tout connu, c'est les Éthiopiens. Moi, j'ai les chiffres du 31 mars 2014 pour l'Éthiopie. Vous avez 6622 soldats éthiopiens qui sont impliqués militairement dans des opérations habillées et dans le Darfour.
Mais en gros, on a quand même 8000 Français oui, en Afrique,
mais
sur
vous avez,
tout
vous
le
avez,
continent.
Vous avez les Nigérians, vous avez les Rwandais, vous aviez les Sud-Africains,
oui, mais c'est
vous avez les Tanzaniens.
Ce sont, c'est normal que ce
oui,
soit des armées africaines en Afrique.
Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, la France a été seule au Mali au début, elle en a pris l'initiative, parce qu'encore une fois, le système politique français fait qu'entre le moment où le Conseil de défense décide d'agir et le premier hélicoptère qui décolle de Ouagadougou, il s'écoule 5 heures. C'est-à-dire, nous, on n'a pas besoin de passer par le Bundestag. L'Allemagne est plus démocratique de ce point de vue-là, et nous, on est plus efficace. Mais après, vous avez vu que la nouvelle ministre allemande de la Défense vient de faire une tournée tant au Sénégal qu'au Mali, hein, et elle a fait des discours en français pour annoncer un renforcement. Le président polonais a envoyé
Michel
un C-130.
Goya. Michel Goya, vous le trouvez suffisant, l'engagement des Européens aux côtés des Français
les
en Afrique ?
Les choses changent depuis l'attentat d'Inamenas. Les choses
Attendez,
ont changé.
Je voudrais avoir le point de vue du militaire.
Je pense que, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que si les Européens ne s'engagent aussi peu, ce n'est pas parce qu'ils ont une vision stratégique plus juste et qu'ils se disent que l'engagement militaire est quelque chose de déstabilisant. C'est simplement qu'ils ne veulent pas, ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas la culture. Voilà, il y a très peu de pays qui sont capables, qui ont la volonté, qui ont encore le courage de s'engager, de lancer des opérations militaires. Très concrètement, la France est assez isolée en Europe. Maintenant, encore une fois, les interventions militaires en Afrique sont d'abord le fait des Africains eux-mêmes. Il faut quand même pas l'oublier, ce qui montre bien que ça peut éventuellement servir à quelque chose quand même.
Alors, on était en train d'aborder le sujet tout à l'heure avec le Mali. Les relations ces derniers mois ne sont pas au beau fixe. On a vu, par exemple, le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, demander aux Maliens d'aller plus vite dans la réconciliation, ce qui n'est pas tout à fait apprécié. Comment peut-on éviter les critiques d'ingérence dans les affaires des États africains quand on prend autant de part aux activités militaires?
Mais écoutez, pour mettre les pieds dans le plat, la bande saharo-sahélienne, elle n'est pas seulement climatique, elle est traversée par ce que j'appellerais une méta-frontière politique et culturelle, avec d'un côté les populations arabes, arabisées et touareg, de l'autre côté les populations négro-africaines. Avec des contentieux extrêmement forts, comme on le voit par exemple en République centrafricaine, ce contentieux c'est l'esclavage, la traite arabe de la vallée du Nil. Et donc là on a quelque chose où il y a d'une certaine façon une continuité extraordinaire entre Mitterrand et Hollande. Mitterrand a donné un coup d'arrêt avec l'opération au Tchad. On ne change pas cette limite-là. Et Hollande fait la même chose.
Mais donc après, les opérations s'accumulent, parce que le Tchad, c'était 1986.
Bien sûr que les opérations, mais les opérations...
Jusqu'où peut-on aller ? C'est la question.
La stratégie actuelle consiste en effet à essayer d'accélérer la formation de capacités africaines, de préférence régionale. L'Union africaine a des programmes de forces dites en attente, stand-by forces, qui peinent à se mettre en ordre de marche. Alors on voit très bien, encore une fois, les États africains agir dans le cadre soit de l'Union africaine, soit des Nations unies, mais pas encore suffisamment dans un cadre régional. Les armées sont mal payées, sous-équipées, parce qu'on craint encore que si elles sont dotées d'hélicoptères, elles vont s'en servir pour attaquer le palais présidentiel le lendemain matin.
Michel
Donc là,
Galli,
en effet, il y a un problème politique de gestion des forces armées.
Vous vouliez intervenir sur cet aspect politique de la chose ?
Oui, alors d'une part, je voudrais rappeler qu'il y a une série d'interventions françaises accélérées, Libye, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, donc il y a une certaine spécificité française et même pour certains une domination, une prise de pouvoir quelque part du ministère de la Défense sur le Quai d'Orsay, hein, puisqu'on sait que pour le Mali, par exemple, il y a une sorte d'épuration au sein du Quai d'Orsay. Et donc, des militaires sans doute très marqués à droite ont une influence excessive, selon certains analystes, sur Hollande et poussent à des interventions à répétition.
Ouais, j'aime autant vous dire qu'il y a des réactions dans le studio. Donc,
il y a une alliance privilégiée des militaires français avec les Touaregs. Ça dure depuis presque un siècle, en tout cas depuis 50 ans, et c'est une grave erreur de maintenir cette espèce de cité-État de Kidal donnée aux Touaregs, hein. ça fait qu'on a perdu, dans le cas du Mali et même dans d'autres capitales africaines, tout le bénéfice de l'opération Serval depuis janvier 2013.
Mais c'est un peu la théorie du complot. C'est un peu. Vous pensez que c'est.
Pour le forcer à négocier.
Vous pensez que les choses se formulent de cette manière ? C'est un peu la théorie du complot, en fait, que vous développez.
Non, c'est des gens bien précis. Par exemple, à l'opposé complètement de mes options politiques, Jeune Afrique a décrit qui et quoi. Des généraux d'extrême droite, le chef d'état-major particulier du président de la République française, et tout moi, ce que j'appelle un complexe militaro-colonial qui pousse aux interventions françaises à répétition en Afrique.
Michel Goya, vous voulez réagir ?
Centrafrique, c'est plutôt d'ailleurs un échec pour le moment qu'un succès.
Michel Goya.
D'abord, bon, les options politiques, ce sont des présupposés, je ne vois pas ce que ça vient.
Vous savez, les généraux d'extrême droite, ils ne sont pas portés à la décolonisation ou à la fin des dictatures en Afrique.
Je rappelle que la décolonisation est terminée quand même depuis longtemps.
D'après vous, l'indépendance économique, elle est encore en train d'être recherchée. Si c'est terminé, il n'y aurait pas d'intervention militaire à répétition, une sorte de recolonisation accélérée comme en ce moment, je suis désolé.
Vous pensez qu'il fallait laisser la voie libre aux violences en République centrafricaine, qu'il n'y avait pas.
En République centrafricaine, madame, on a créé une situation, ce que j'appelle une situation d'intervention. Il y avait des accords de défense, on n'est pas intervenu pour sauver Bozizé de la Séléka en mars de l'année dernière, ce qui fait qu'à un moment, effectivement, il y a une obligation à intervenir et il n'y a que la France qui peut intervenir, mais dans des conditions désastreuses, alors qu'au moindre coup, on aurait pu bloquer, dans le cas de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, comme la Centrafrique, la rébellion. Et au début, il y avait 1000 ou 2000 hommes qui descendaient d'ailleurs du Tchad, où notre ami Idriss Déby a poussé la rébellion de la Séléka vers Bangui, c'est de notoriété publique.
Donc les interventions militaires peuvent être utiles, quoi, visiblement.
Peuvent être utiles quand on a créé une situation néocoloniale d'intervention où il n'y a plus que cette solution. Mais si on applique des accords de défense qui en partie ont été secrets et sont à géométrie variable selon les intérêts de Paris, de l'Élysée, du ministère de la Défense, c'est là où les choses ne vont plus.
Ce qui est vrai, c'est qu'on peut tout de même s'interroger, Michel Fouché, sur l'absence des Européens quand même à nos côtés sur tous ces terrains. C'est du coup, les Français prêtent le flanc à ce type de critique.
Jusqu'à l'attentat d'In Amenas qui a touché des gens d'Europe centrale, des Norvégiens, etc., il y avait en effet une indifférence, une méconnaissance et un manque d'intérêt qui est tout à fait compréhensible. Si vous êtes balte, si vous êtes polonais, vous regardez plus à l'est qu'au sud, même avant les événements ukrainiens.
Oui.
Et la semaine dernière, j'ai rencontré des délégations baltes qui ont compris qu'il y avait une espèce d'échange entre le renforcement français pour la police du ciel dans les pays baltes, en matière d'aviation, et la nécessité d'envoyer des hommes en RCA. Quand vous êtes balte, envoyer des hommes en RCA, ça demande quand même d'avoir ouvert un atlas et de faire preuve peut-être d'un sens, stratégique un peu plus aigu. Les choses changent énormément. Ça prend du temps. Alors notre système de décision est extraordinairement efficace, mais parfois on prend peut-être pas le temps de faire de la pédagogie, si vous voulez. Alors, Madame Merkel dit à juste titre, moi, j'envoie pas des troupes s'il n'y a pas eu une discussion commune. Et quand vous avez une urgence, vous ne pouvez pas. Mais je crois qu'au contraire, et notamment avec le nouveau gouvernement allemand, il y a une prise de conscience d'un intérêt stratégique européen dans une stabilisation de la zone, en fait, Maghreb, Sahara, Sahel.
Mais au fond, ce que les Européens voient peut-être aussi, c'est qu'on peut toujours commencer une guerre, toujours très difficile de la terminer, et nos missions en Afrique se multiplient, et en plus, on parle de missions ponctuelles qui finissent par s'éterniser, Michel Goya.
Oui, mais parce que encore une fois, on n'est pas non plus dans un contexte de conflit interétatique avec une déclaration de guerre et un traité de paix. On est en lutte contre les organisations qui ont effectivement souvent des implantations. Ces conflits sont nécessairement longs. Voilà, il n'y a pas d'exemple. Vous parlez du Tchad, on est au Tchad en réalité depuis 1969. Mmh. Voilà, on est en République centrafricaine également. Ça fait 45 ans qu'on mène des opérations en République centrafricaine. Mmh. Donc ce sont forcément des efforts qui sont longs.
Je vous remercie beaucoup. Nous sommes obligés d'arrêter à ce stade ce tour d'horizon assez vaste sur nos opérations à l'extérieur de la France. Merci à Michel Galli qui était au téléphone avec nous. Merci à vous Michel Fouché, Michel Goya. Et demain Géopolitique, vous retrouverez Éric Bataillon sur le Yémen.